deuxième partie de la matinée est complètement dédiée à la recherche, une dimension très importante de l'école, comme cela a été déjà mentionné hier matin. Et j'ai le plaisir, en première partie, de vous présenter Françoise Préteux, qui est la directrice de la recherche de l'école, qui va vous présenter un panorama de la recherche au sein de notre école. Voilà, Françoise, je vous remercie.
Merci infiniment, François, pour votre accueil. Bonjour. Donc, je ne me présente plus, vous savez tout. Maintenant, c'est ambitieux, en quelques 45 minutes, de vous présenter la recherche at École des Ponts. Alors, je vais essayer de vous en donner quelques éléments. Mais pour commencer... à l'École des Ponts. Je vous félicite, non pas de m'applaudir, mais je vous félicite d'avoir intégré notre école. Vous avez une chance immense. Une chance que, bien évidemment, vous avez méritée et forcée par votre talent, par votre travail. Mais une chance dont vous devez avoir hautement conscience pour les opportunités et les perspectives nouvelles qu'elle vous offre. Saisissez-les. Appropriez-les-vous. Bref, vous êtes en train de construire ici le début de votre projet professionnel. Et mon message va être simple. Pensez recherche. Et faites la différence. Devenez ingénieur, chercheur. Alors vous allez me dire, ah, mais au début du 21e siècle, les médias clamaient partout que ce serait le siècle des ingénieurs managers. Oui, mais depuis, en 2010, le PDG de PSA Citroën a mis un point d'arrêt assez final à cette vision en déclarant, lui, de son côté, que ce serait le siècle des ingénieurs scientifiques. À l'évidence, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ce siècle sera celui des ingénieurs-chercheurs. Mais que fait un ingénieur-chercheur? Alors, on va poser les questions de façon graduelle, vous savez, comme en mathématiques, en séparant les variables et en commençant par le plus simple. Quel est le métier d'un boulanger? Il fait du pain, très bien. Un garagiste? Bravo, il répare les voitures. Un médecin? Il soigne les gens. Plus complexe. Un ingénieur? Ah, c'est plus difficile. Et pour cause, puisque l'ingénieur, il peut prendre des activités qui sont tellement protéiformes qu'il est difficile de les condenser en une formule. En revanche, quel que soit le champ d'activité de l'ingénieur, il est toujours la force vive de l'entreprise, à laquelle il doit apporter, eh bien évidemment, un élément de compétitivité pour un effet de levier économique. Pour faire simple, l'ingénieur, c'est le moteur de l'innovation de l'entreprise. Mais quelle est la clé de l'innovation? Merci. La recherche, vous avez tout compris. Et donc, il faut devenir ingénieur chercheur. Autrement dit, l'ingénieur chercheur a un rêve. Et son rêve est simple, c'est passer de l'idée à la conquête du monde. Simple, ambitieux. mais réaliste. Savez-vous que pratiquement tous les bâtiments du monde reposent sur une idée qui est due à l'un de vos anciens? Bon, alors, je vous aide. Si vous passez en revue tous les noms des espaces, des lieux de l'école, vous allez nécessairement tomber sur le nom de cet ancien. Mais je ne vais pas vous faire languir. Il s'agit de ce monsieur, Eugène Freycinet. Alors, je vais vous raconter son histoire. Au début du siècle dernier, Eugène Freycinet savait très bien que le béton ne résiste pas à la traction. Il se brise. Mais ce qu'il a compris alors, c'est qu'il résiste merveilleusement bien à la compression. D'où l'idée du béton précontraint. Alors c'est simple, hein, en tout point, les compressions doivent être supérieures aux tractions qui seront exercées ultérieurement. Principe très simple à énoncer, à comprendre, mais qui a nécessité de développer de nombreuses formules mathématiques très élaborées, du calcul tensoriel sophistiqué. Là, je vous sens déjà plus à votre aise. C'est bien. Des théories originales, tout à fait innovantes, en particulier pour découvrir dans un premier temps, puis modéliser dans un second temps, les phénomènes vibratoires du béton, les lois de fluage, c'est-à-dire leurs déformations différées. On en mesure parfaitement l'enjeu quand on se remémore la catastrophe de Gênes, par exemple. Autrement dit, Eugène Freycinet a été tour à tour un brillant taupin comme vous, un ingénieur curieux et un chercheur de génie. Mais il ne s'est pas arrêté là. En fait, il est passé à la réalisation de dispositifs qui permettaient de fabriquer du béton précontraint. Et en plus, ces dispositifs, il les a brevetés, donc protégés, et il est devenu entrepreneur. Puis, il est devenu manager. La suite de l'histoire, on la connaît. L'entreprise Freycinet, c'est le numéro un mondial des haubans supports de pont. C'est 6000 personnes dans le monde. C'est le plus large portefeuille de brevets actifs du génie civil français. C'est évidemment des contributions à des ouvrages remarquables tels que le viaduc de Millau. Je vous sens pensif pour certains, le béton, ça vous laisse de marbre. Alors d'autres vont me dire, oui, puis ça c'était le siècle dernier. Je vous comprends. Alors, je vais vous raconter une deuxième histoire d'ingénieur-chercheur plus proche de vous. Enfin, j'allais dire plus proche de nous. Alors, celle-là, je la connais bien. Moi, ma passion, c'était les maths. Autrement dit, la topologie, les processus aléatoires, bref, les théorèmes, moi, ça me parle. Tout comme à vous, d'ailleurs. Bien. Seulement, j'étais attirée par la médecine. Alors je me suis dit, comment concilier ces deux passions dans mon stage d'ingénieur? Alors là, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré le grand patron du service de radiologie de l'hôpital Saint-Louis. À cette époque, cet homme parcourait le monde avec un fantôme sous le bras. Ne riez pas parce que c'est très très sérieux. Voilà pourquoi. Son service a été le premier à être doté d'un scanner corps entier. Une révolution technologique, hein. L'homme devenait transparent, on allait à l'intérieur de façon non invasive, parfait. Et en plus, la technologie était française, de surcroît, bravo. Sauf que, eh bien, les données qui en résultaient, les images qui étaient reconstruites, avait un biais systématique ou prétendu tel qui était lié à la dérive par le vieillissement du tube à rayons X. Donc, ce médecin, très ingénieux, a imaginé un dispositif de fantôme pour calibrer en fait les données scanner et pour pouvoir faire des mesures fiables et reproductibles de la tomodensitométrie, mesure d'image de coupe. Et donc il se promenait partout pour simuler dans son scanner eh bien, les tissus mous, les tissus durs du corps humain à partir de matériaux de densité parfaitement connue, ce qui permettait de faire la calibration. Quand je l'ai rencontré, il était quasi au sommet de sa gloire, mais comme il avait toujours une vision avec une longueur d'avance, il s'est dit, la vraie question maintenant, c'est comment exploiter automatiquement ces images inédites. Autrement dit, comment être capable de détecter des lésions cancéreuses de façon extrêmement précoce? Une image de scanner, c'est à 4096 niveaux de gris. La perception visuelle humaine, c'est, allez, pour un œil très entraîné de radiologue, 32. Pour vous, c'est beaucoup moins. Surtout avec les jeux vidéo. Bref, il faut travailler. Les questions étaient ouvertes. Comment être capable de d'estimer, par exemple, la motilité cardiaque en 4D. Le cœur, c'est un muscle, il est 3D, il bouge dans le temps, il se contracte, c'est mieux d'ailleurs. Donc ça fait du 4D. Bien, donc c'est dynamique. Comment être capable d'estimer la fraction d'éjection ventriculaire? Comment être capable de représenter un réseau bronchique en 3D et qui est celui du patient étudié par un truc générique? Et comment être capable d'estimer quelle est la quantité de produits qui a été absorbé par le patient dans le cadre de pathologies pulmonaires, par exemple? Tous ces sujets-là, extrêmement passionnants, ont nourri des modélisations mathématiques qui ont été très riches, effectivement. Je peux vous en montrer une. Pour vous dire qu'un arbre bronchique, comme celui-ci, c'est un représenté, modélisé par un champ de Markov en 26 connexités. Que la caractérisation de l'ostéopénie sénile d'involution, c'est-à-dire la raréfaction du tissu spongieux au cours du vieillissement, c'est qui est un phénomène tout à fait normal, donc sans aucune pathologie particulière, sauf quand les choses s'accélèrent, en particulier dans des sociétés occidentales vieillissantes, ça c'est un schéma booléen dont la capacité de Choquet, un petit truc assez sophistiqué en maths, permet d'estimer le degré de sévérité. Une fraction d'éjection ventriculaire cardiaque, c'est une EDP par exemple. Bref, il y a de quoi se faire plaisir. Vous allez me dire, de l'idée au rêve que vous aviez, on en est encore loin. Oui. Mais le rêve peut se réaliser. Il peut se réaliser à partir du moment où on a été capable de tester, donc de valider les modèles, les logiciels développés, les méthodes proposées. Et pour les valider, là encore, c'est tout un pan de recherche qui se met en place pour développer des choses qui sont plus ou moins ingénieuses, parfois ubuesques. Je me souviens que pour le calibre bronchique, on est allé chercher des brebis pour faire des tests, et on les a endormies, on les a passées au scanner comme de gentils patients, et puis après, elles se sont réveillées, elles sont reparties trottinant, tout à fait guillerettes. Bon, donc tout cela a permis de faire en sorte que, aujourd'hui, vous vous posez pas de questions, ces logiciels, brevetés, protégés, bien sûr, sont intégrés en routine clinique dans les différents services et dans les différents systèmes de TDM. Bien. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la recherche, c'est toujours avec des rebondissements. Et tout peut changer. Un jour, j'étais dans une conférence internationale, et à la fin de ma présentation, il y a un jeune spécialiste des cartoons qui est venu me trouver en me disant, en vous écoutant, moi j'ai eu une idée, je voudrais automatiser la production de cartoons en 3D. Vous savez, les cartoons, ça se fait par des images clés et image par image. Et ensuite, c'est de l'interpolation, et ça, ce sont des dessinateurs qui font les techniques d'interpolation. Donc ça coûte relativement cher. Moi, je n'y connaissais strictement rien. Moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. D'ailleurs, mon interlocuteur était un passionné, un fou des cartoons. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure toute nouvelle en partant de zéro. Et c'est là où j'ai découvert, bien évidemment, tout ce qu'était animation 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, le gaming, etc. Et donc, c'était le début de la transition digitale. Génial. Nouveaux outils, nouveaux modèles, nouvelles technologies, le streaming, les nouveaux périphériques, les nouveaux devices. Qu'est-ce que c'est que les bandes passantes ? Préoccupation que j'avais jamais eue préalablement, mais qui ont des impacts, bien évidemment, très lourds sur quelles sont les méthodes qu'on utilise, comment il faut faire de la compression. Bref, tout cela, ce fut aussi une belle aventure. Petite image de vieux souvenirs. Voici Léon le caméléon. Derrière, il y aura Zozo le petit oiseau. Bref, pour faire de l'animation. Tout cela, aujourd'hui, c'est utilisé. Ça a été monté dans la norme MPEG-4. Autrement dit, vous l'utilisez sans le savoir. Et j'ajouterais que la normalisation, aujourd'hui, ça donne une bonne idée de l'état de transfert de la recherche vers le monde de l'industrie, qui se l'approprie ensuite dans de nouveaux produits, de nouveaux services, qui sont évidemment à la disposition des utilisateurs. Bref, aucune comparaison entre ma petite histoire à moi et la grande histoire de Fraissinet, à ceci près qu'on a au moins quelques points communs. Tout d'abord la curiosité, deuxièmement la créativité, et troisièmement le fait d'apporter un service à la société. Et donc c'est ça que je souhaitais vous souligner à partir de ces deux petits exemples, en passant maintenant à, et aujourd'hui, à l'école des ponts, que fait-on ? Bon, on relève des défis et on passe des défis à la recherche. Alors les défis, ce sont ceux qui sont étroitement liés à l'activité économique du pays, qui sont au cœur même des enjeux du 21e siècle. Vous avez tout de suite compris que c'est réussir ou contribuer à réussir à la transition écologique. Vous avez 12 bannières qui représentent les 12 laboratoires dans le forum. Et évidemment, c'est la recherche, c'est réussir la transition écologique. Avant même que notre ministère de tutelle ne s'intitule « Ministère de la transition écologique et solidaire ». Bien, le décor est posé. On a des défis. Quels sont les défis socio-économiques ? Ils sont au nombre de 4. Je vais commencer par l'industrie du futur, le lourd. Or, en disant industrie du futur, vous pensez à quoi ? En général, on me répond industrie 4.0, IoT, sensors, réseau ad hoc, etc. Très bien, c'est une bonne idée. Mais ici, on pense essentiellement à éco-conception, éco-production, économie circulaire, donc recyclage, donc dans le bâtiment, par exemple, nouveaux matériaux, etc. Je ne déflorerai pas ce qui vous sera présenté tout à l'heure et qui sera évidemment passionnant. Et je voudrais simplement vous montrer un petit exemple. On se saisit des enjeux économiques au niveau de l'espace. L'espace, ce sont des grands projets qui mettent en œuvre des milliards. Aujourd'hui, le défi à relever, c'est d'aller dans l'espace pour 2 francs 6 sous. 2,06 sous ou 2,06 dollars. Voici le plus grand moteur de fusée du monde, imprimé en 3D, réalisation 2019 par la start-up Orbex, start-up britannique. L'avantage de l'impression 3D, c'est que ce moteur, il est en une seule pièce 3D. Autrement dit, toutes les faiblesses de soudage qu'on rencontrait sur les autres techniques de réalisation de moteurs disparaissent. En plus, il est réalisé en fibre de carbone formulée à partir d'un aluminium composite. Autrement dit, il est 30% plus léger que ses concurrents. Il est 20% plus efficace en termes de puissance que les dispositifs concurrents. Et surtout, j'avais parlé de éco au début, il est 90% de moins en émissions de gaz à effet de serre par rapport à ceux qui utilisent des hydrocarbures fossiles. Je ne veux pas dire de l'infiniment grand à l'infiniment petit, mais vous voyez la transition. Et si on était capable d'avoir des satellites tout petits, réalisés très rapidement, toujours par impression 3D, là c'est une autre histoire, c'est l'histoire d'étudiants. D'étudiants qui ont la fibre de la recherche. 4 étudiants indiens qui se sont lancés comme défi de réaliser le satellite le plus léger du monde par impression 3D. Alors là aussi, ils sont partis sur de la fibre de carbone. Pas de chance, le petit satellite de 64 grammes qu'ils ont construit, il a une durée de vie en apesanteur de 12 minutes. C'est un petit peu léger pour passer au stade après opérationnel. Et c'est là où la recherche est intéressante. C'est qu'il faut continuer. On apprend des échecs. Les échecs sont extrêmement formateurs. Avoir fermé une voie sans issue, c'est très important, ça veut dire que d'autres ne s'y engageront pas. Et donc là, ils ont recherché, et dans leur recherche, ils ont fabriqué un nouveau matériau. Et cette fois-ci, ils ont pris des fibres de nylon. Pourquoi ? Parce que ça résiste au choc, ça résiste à l'abrasion et ça résiste à la température. Ils se sont dit, on tient notre solution, et c'est léger. Très bien, sauf que voilà, le nylon, ça absorbe l'eau, l'humidité. Et donc, il a fallu repenser la tête d'impression. Donc, voyez, Freycinet, lui, il avait développé son procédé pour réaliser le béton. Là, il développe avec une entreprise, hein, 3D-ing, ils ont développé la tête d'impression qui permet d'avoir un système de réchauffage de manière à éliminer l'humidité. Aujourd'hui, ils ont un petit satellite de moins de 34 grammes avec une durée de vie, ce qui est annoncé pour le moment et pas démontré, de 24 heures en apesanteur. Et ça, c'est l'impression 3D, donc c'est de la fabrication additive, vous voyez. On conjugue un certain nombre de disciplines scientifiques, technologiques, pour réaliser cela. Autrement dit, l'impression 3D a de beaux jours devant elle. Et aujourd'hui, ce que l'on voudrait, c'est faire des imprimantes 3D autonomes. Autrement dit, des imprimantes qui sont mobiles, qui savent nager, par exemple. Et ça nous permettrait de lutter relativement efficacement contre le changement climatique, en particulier en milieu aquatique. Et puis, maintenant, puisqu'elles vont au fond des mers, pourquoi elles n'iraient pas dans le ciel? On aimerait bien qu'elles volent. Et il y a des premiers prototypes pour essayer de faire voler ces machines. Alors vous allez me dire, mais c'est le rêve. Oui, mais c'est un rêve qui pourrait devenir réalité. L'enjeu, c'est que on sait très bien que les gratte-ciel un peu partout dans le monde sont très vieillissants, que leurs façades présentent des signes d'usure parfois inquiétants, que c'est pas toujours simple d'aller grimper tout là-haut. Et si on pouvait envoyer directement les imprimantes 3D pour veiller à la maintenance, ce serait parfait. Économie, ça coûte pas cher, l'humain est pas mis en risque et ça risque d'être efficace. Et ça me fait la transition toute trouvée avec un enjeu aujourd'hui de plus en plus prégnant dans l'industrie du futur, c'est la maintenance préventive. Alors la dernière étude de McKinsey dit que ça permettrait d'ici 2025 aux entreprises d'économiser quelques 630 milliards de dollars. Ah, ça peut faire rêver aussi. En tous les cas, en France, il y a longtemps qu'on s'est saisi de cet enjeu et la SNCF au premier chef qui a très bien compris tout le bénéfice qu'elle pourrait tirer d'une maintenance prédictive au niveau de ses rames, de l'utilisation de ses rames et du planning, de l'optimisation de son planning au niveau de ses technicentres. Et ça, c'est un partenariat qui vient d'être noué avec l'école sur un très très beau sujet de thèse, d'ailleurs d'un de vos très jeunes anciens, puisqu'il vient de sortir, et cela s'est développé avec le laboratoire CERMIX. Alors, on a roulé, on va voler Air France. Alors, Air France, aujourd'hui, c'est très bien qu'elle est dans un monde compétitif sévère. Et elle a bien compris que immobiliser un avion parce qu'il y a eu une panne, qui n'a pas été anticipée, ça coûte très cher. Donc la première question qu'on nous a posée, dans le cadre d'une chaire, donc d'un partenariat de très long terme, toujours avec le laboratoire CERMIX, c'était la suivante. Pour un équipement donné, à quel moment dois-je le changer? Maintenant ou en attendant la prochaine maintenance régulière sur l'avion? D'accord? Alors pour traiter cela, mathématiquement, il faut deux phases. Hein. La première, c'est de l'apprentissage statistique. La deuxième, c'est de la recherche opérationnelle. Bien. C'est fait. Alors on rend les choses un peu plus complexes. On dit, par rapport à un ensemble d'équipements dont on a la date de prévision de panne, quelle priorisation faut-il faire pour les opérations de maintenance de manière opérationnelle? Là, ça commence à se compliquer. Alors maintenant, on peut changer de sujet encore. On peut faire un peu plus complexe. On peut se mettre pour la réorganisation du hub d'Air France. En se disant, voilà, moi je veux maximiser le nombre de vols, mais sous deux contraintes. La première, c'est quelles sont les portes qui sont disponibles au hub. Et puis, tant qu'à faire, j'aimerais utiliser des avions de ma flotte plutôt que des avions de compagnie d'à côté. Ça, c'est aussi très compliqué. Un dernier sujet pour vous dire qu'on va du plus simple au plus complexe et qu'on apprend en marchant de cette façon-là. Et là, on va aller faire des processus stochastiques et de l'optimisation stochastique. C'est comment peut-on optimiser le planning des personnels sans qu'il y ait accumulation des effets de retard. Quand vous avez un équipage qui doit embarquer sur un avion alors que l'avion est atterri avec du retard, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Immobiliser l'équipage et le laisser attendre dans le salon, ou bien reporter cet équipage-là sur un autre vol et faire en sorte qu'un nouvel équipage soit affecté à l'avion qui avait du retard. Pas simple à suivre. Alors j'aurais pu vous développer plein d'autres choses, mais je sais très bien que Karamsa va le faire tout à l'heure, en particulier avec tous les aspects d'intelligence artificielle, de numérique, qui aujourd'hui sont en train de diffuser dans des secteurs historiques de l'école, en particulier au niveau de la robotique. Et je voulais simplement citer les trois grands laboratoires qui contribuent à relever les défis. CERMIX, un laboratoire de mathématiques appliquées, le LIGM, laboratoire d'informatique Gaspard Monge, avec l'équipe Imagine qui est spécialisée en intelligence artificielle, apprentissage profond, vous savez, dont on parle tout le temps, le deep learning, ça fait plus chic en français, et le laboratoire Navier, dont je ne dirai rien, puisque le directeur est là. Deuxième enjeu, socio-économique, système ville et mobilité. Vous avez entendu parler du facteur 4, suite au Grenelle de l'environnement. Le facteur 4, il dit la chose suivante, on va diviser par 4 nos émissions. Bon, globalement, les émissions de gaz à effet de serre, le gros contributeur, c'est le transport, pour faire simple. Hein. Il pèse très lourd dans la balance. Donc l'objectif, c'est de diminuer de 60% à horizon 2030. Bien. Et en parallèle, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on augmente de 80% le transport des personnes et de 50% le transport des marchandises. Donc en termes d'équation, c'est pas simple. On est d'accord? Alors la réponse, tout le monde la connaît, c'est transport bas carbone, mobilité bas carbone, donc véhicule électrique. Oui, alors véhicule électrique, tout le monde sait que ça existe. L'enjeu, il est peut-être pas là. L'enjeu, c'est le véhicule autonome. Alors le véhicule autonome, il faut repenser à peu près tout. Et donc l'école est porteur de l'Institut de la mobilité durable avec un ensemble de partenaires académiques et évidemment Renault. C'est un terrain de jeu d'exception avec au cœur du système eh bien l'acteur socio-économique majeur qui permet non seulement de valider des prototypes en première instance, c'est-à-dire sur des enjeux de court terme, mais également de laisser se déployer des recherches sur des enjeux de long terme, en faisant en sorte qu'il y ait une synergie d'acteurs dans des disciplines qui sont extrêmement variées, allant du géographe sociologue au technicien informaticien, mécanicien, modélisateur, simulateur, etc. Donc c'est de l'interdisciplinarité pour une vision beaucoup plus holistique, intégrant une dimension à laquelle l'école tient tout particulièrement, c'est la modélisation économique de tous ces nouveaux systèmes qui font émerger de nouvelles filières. laboratoire impliqué, LVMT. Qui dit urbanisation, je crois qu'on sera quelque 70 milliards en 2030, ou dans 30 ans, donc peut-être 2050. Ça veut donc dire que tous ça veut donc dire que globalement, il y a une massification urbaine importante. Donc 70% de la population sera en ville, à peu près. Alors on a un très très grand chantier, c'est le plus grand chantier en Europe, c'est le Grand Paris Express. C'est 200 km de lignes de métro automatique, c'est-à-dire autant qu'actuellement, c'est 4 nouvelles lignes, c'est 68 nouvelles gares. Donc on est en train de repenser le métro qui est dû à... Merci, Fulgence, bienvenue. Un ingénieur des ponts, bien sûr. Et donc, on revisite complètement les gares qui se trouvent maintenant devenir des lieux de vie, des lieux de service. Et, bien évidemment, ça met en œuvre toute une politique d'aménagement du territoire. Et c'est ça qui est important, c'est cette dimension également aménagement du territoire qui est à prendre en compte avec des concours d'architectes. Il y a 37 architectes qui ont été sollicités et je vous signale que la gare de Noisy-Champs, qui est juste à côté et qui sera donc bénéficiaire de cet élan du Grand Paris Express, eh bien, le concours a été remporté par Jean-Marie Dutilleul, qui est un ingénieur des ponts. Bien, alors si les gares deviennent des lieux de vie, de service, ça veut dire qu'il va y avoir des partages d'informations et de données. Et donc, la grande révolution aujourd'hui de la mobilité, c'est le MaaS. Le MaaS, c'est Mobility as a Service, autrement dit la mobilité comme un service. Et ça, c'est repris dans la loi LOM, donc la loi d'orientation sur la mobilité, qui en 2021... prévoit que tous les acteurs des transports devront partager leurs data de manière à obtenir l'offre de services globale, les territoires étant des acteurs extrêmement dynamiques pour s'emparer de ces enjeux, pour proposer des offres de services à leurs usagers et citoyens. Et bien sûr, ça, c'est traité au niveau du LVMT. Alors je voulais finir cet aspect-là sur ce que l'on appelle la mobilité douce. Donc je suis allée au Grand Genève pour vous montrer qu'il y a d'autres impacts faits de la mobilité. Alors j'ai bien vu qu'il y avait une trottinette là sur les mobilités, nouvelles mobilités, mais je ne suis pas sûre que ça soit ça que le Grand Genève veuille vraiment faire. C'est de faire en sorte que pour l'usager, il soit facile de passer d'un mode de transport à un autre, c'est de la multimodalité, mais sans un effort considérable. Autrement dit, quand il y a un très grand dénivelé, on fait une passerelle. Quand il y a des voies de circulation un peu intenses, eh bien on fait des voies séparées. C'est ça l'objet de la mobilité douce du Grand Genève. Allez, un dernier petit sujet sur cette thématique-là. La ville. D'aucuns prétendent que dans les grandes villes, respirer, c'est comme fumer. Je pense qu'on a vécu des épisodes de pollution très récemment, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Autrement dit, qualité de l'air, c'est un enjeu véritable. Donc je pourrais vous parler de tous les travaux de recherche de notre laboratoire, le CEREA, sur la qualité de l'air, la détection des particules fines, les modèles mathématiques, physiques de l'atmosphère, faire la distinction entre ce qui provient de la pollution de fond, de la production de cette pollution qui est plus locale. J'ai choisi un tout autre sujet, parce que celui-là, il est extrêmement original. La recherche, c'est aussi parfois des sujets de niche, ce sont des idées qui germent dans des cerveaux qui ont des visions et qui ont envie d'aller de l'avant. Le projet, ça porte des portes soufflantes. En fait, c'est un projet que le CEREA réalise avec l'hôpital Saint-Louis. C'est un vrai hasard. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai raconté précédemment. et c'est le service des grands brûlés. Dans le service des grands brûlés, vous savez que chaque chambre, avant d'y pénétrer, on pénètre dans un sas de décontamination. Ces sas de décontamination ont deux portes, et donc il y a ouverture, fermeture, à peu près 100 à 150 fois par jour de ces portes. Pour les soignants, c'est une vraie contrainte, d'abord parce qu'ils sont déjà équipés, ils ont déjà des instruments à porter, et donc il faut gérer le passage dans les portes. L'idée du chef de service, c'est de remplacer ces portes en les supprimant purement et simplement et en les remplaçant par un rideau d'air, exclusivement. L'idée lui en est venue parce que au-dessus du lit du patient, dans la chambre qui, elle, est parfaitement aseptisée, on l'espère, il y a un plafond soufflant. Donc l'idée, c'était de transformer quelque chose qui a l'air de très très bien fonctionner dans les chambres, eh bien, en un rideau vertical. Sauf que là, c'est infiniment plus complexe. Et le CEREA s'est lancé dans cette étude avec une modélisation tout à fait sophistiquée et a rendu ses premiers résultats. Et bien évidemment, on attend la phase 2 et de l'étude. Et j'espère qu'un jour, le service des grands brûlés de Saint-Louis bénéficiera de cette révolution totale technologique, dont la faisabilité est démontrée. Trois laboratoires, LVMT, CEREA, LMD, je n'en ai pas parlé, c'est le laboratoire de météodynamique. Tout ce qui est atmosphérique n'a pas de secret pour lui. Tout ce qui est changement climatique, ce sont des spécialistes. Vous pouvez les consulter. Alors, le troisième enjeu, c'est l'enjeu sur la gestion des risques, des ressources et des milieux. C'est riche. Alors, je vais commencer par les risques. Moi, je dis la météo, ce sont des données qui valent de l'or. Donc, si on les exploite bien, on peut apporter des nouveaux services au bénéfice de la société. Aujourd'hui, on sait que les sciences sur les phénomènes extrêmes se développent. Ces sciences sont portées par des climatologues de renom, et pas seulement, mais par des ingénieurs de recherche aussi, et détecter les phénomènes extrêmes pour faire en sorte que les villes soient résilientes à ceci, c'est très important. On a vécu des épisodes d'inondations drastiques, donc on sait qu'il faut être capable de prévenir plutôt que de guérir. L'École des Ponts dispose d'une expertise tout à fait remarquable dans ce domaine. Vous avez peut-être pu apercevoir d'ailleurs un des instruments de très grande envergure qui trône et tourne tous les jours sur le toit du bâtiment Bienvenue, qui est un radar à double polarisation, qui a un rayon de 100 km autour de l'école et qui permet effectivement de faire une analyse hydrométéo des phénomènes, en particulier des phénomènes de pluie intense. Et c'est développé en partenariat avec Veolia, qui a mis en place les modèles mathématiques physiques qui ont été développés par le laboratoire au bénéfice du bassin de la Bièvre, alors que en région parisienne, tous les autres ont été inondés. Et bien, le bassin de la Bièvre, qui était un bassin initialement extrêmement sensible, lui a été préservé. J'ai dit gestion des risques, des ressources, On prédit que 2050, le mix énergétique doit comporter 70% d'ENR, d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on en est à 20%. Vous imaginez bien que c'est un gros enjeu pour EDF. Alors, EDF se tourne vers ces nouvelles énergies, en particulier l'éolien offshore. La difficulté, c'est pas d'aller récupérer de l'énergie juste au bord des côtes, c'est d'aller en grande profondeur. Mais sauf que là, il y a des efforts sur les ancrages, il y a des efforts aéroliques. Bref, il y a toute une modélisation qui est à développer, qui demande de la mécanique des fluides. Et là, le laboratoire spécialiste, qui est un laboratoire d'ailleurs conjoint avec EDF, c'est le laboratoire d'hydraulique. Alors les médias s'en emparent quasi tous les jours. La Méditerranée, c'est une poubelle à sac plastique. Les dossiers s'intitulent « Déchets plastiques en mer, un septième continent », rien que ça. C'est un sujet qui n'est pas nouveau et dont le laboratoire LESU s'est emparé j'allais dire, de manière tout à fait volontariste et de façon pionnière, il y a déjà de nombreuses années, et en particulier a été, en termes de résultats, une première mondiale sur tous les aspects microplastiques. Donc, n'hésitez pas à aller les contacter. Ils vous feront un petit tour des échantillons qu'ils ont pu repêcher. C'est très, très impressionnant et pas très rassurant. Mais ils travaillent à savoir quelles sont les sources et surtout comment on peut y remédier. Donc, in fine, trois laboratoires. Hydrologie, météorologie et complexité, laboratoire eau, environnement et systèmes urbains et laboratoire hydrologique de Saint-Venant. Équation de Saint-Venant. Dernier enjeu, pas de grand projet sans économie, pas de grand projet sans qu'il y ait des usagers qui en soient les bénéficiaires, donc économie, usage et bien sûr société. Aujourd'hui, ce qui peut occuper les économistes, c'est les aspects de finances vertes, bien sûr. Nous avons un laboratoire où un jeune chercheur a été distingué et a reçu le premier prix de la BPI sur la finance verte. Donc là encore, on est capable de travailler sur ces modèles économiques et d'apporter des éléments d'aide de décision aux politiques publiques. Sachant que tout cela est évidemment fortement imprégné par la transition digitale qui transforme les pratiques, qui transforme la participation des citoyens à des décisions politiques, à des inflexions sur des mouvements et des mouvements sociaux dans tous les domaines, dans tous les métiers. Si je vous ai mis un hashtag, c'est pas tout à fait un hasard. Trois laboratoires de renommée tout à fait internationale. Le CIRED, c'est le centre précisément international de recherche et développement sur l'environnement. Le LATS, c'est un laboratoire alors qui est interdisciplinaire, mais a une coloration sociétale très forte sur les territoires, en particulier leur impact. Et PJSE est un laboratoire de sciences économiques. Panorama, 12 laboratoires, et il manque une chose. Le Co-Innovation Lab des Ponts. Aujourd'hui, on expérimente, on a des grands instruments. L'école des Ponts s'est dotée d'un Co-Innovation Lab, qui est un espace où on peut regrouper aussi bien des chercheurs, des ingénieurs, des élèves, des étudiants, des industriels, des entrepreneurs, des start-upers, bref, faire en sorte qu'il y ait de la synergie et qu'il y ait des projets communs qui se développent. Donc, Industrie du Futur bénéficie d'une plateforme d'envergure qui est la plateforme Build-in pour la construction numérique, avec en particulier une cellule pour faire de l'impression 3D. Système Ville Mobilité développe de la modélisation pour la mobilité urbaine. Là, c'est plus logiciel et modélisation économique associée. Et gestion des risques, ressources et milieux à la plateforme Fresnel. Plateforme Fresnel qui bénéficie bien évidemment de du radar, un très grand instrument, mais également d'une plateforme as a service, Radix, qui était capable de retransmettre des données qui sont traitées en fonction des demandes des partenaires. Et puis, à côté de ces trois plateformes technologiques, j'ai ajouté quelque chose. J'ai ajouté pour les laboratoires d'économie, eh bien, un champ d'expertise sur l'évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui, c'est un gros enjeu et pour la première fois, eh bien, le gouvernement a proposé effectivement que des laboratoires évalue tout simplement le budget prévisionnel qui était le budget financier 2019. Et le laboratoire PJSE a été impliqué dans cette étude. En bref, quelques chiffres. 12 laboratoires, 6 unités mixtes CNRS, un Co-Innovation Lab, 425 scientifiques, chercheurs, enseignants-chercheurs. Et puis la force vive de la recherche, ce sont les doctorants, bien sûr. 530 doctorants, vous voyez 45% d'internationaux, donc on est évidemment ouvert à l'international, à un très très large champ. Les jeunes femmes sont les bienvenues, presque 40%, je m'en réjouis. Bien sûr, une activité scientifique de premier plan, vous savez que les unités de recherche, les laboratoires sont évalués par un haut comité. Et donc, nous avons des critères de publication dans les meilleures revues internationales et puis des critères également en termes de sélection de très grands projets. Il y a des programmes européens pour des chercheurs, ça s'appelle des ERC, et c'est la reconnaissance européenne de l'excellence scientifique au niveau de la France. Cette reconnaissance, ce sont des projets JCJC, jeunes chercheurs, jeunes chercheuses. Une petite analyse pour vous dire combien il fait bon vivre la recherche à l'École des Ponts, classée deuxième par Industrie et Technologie des meilleures écoles d'ingénieurs pour soutenir sa thèse, et cela en 2018. On attend bien sûr les statistiques 2019 avec angoisse. Le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est que toutes ces recherches, je vous ai cité un certain nombre d'acteurs, mais j'aurais pu en citer davantage, ces recherches sont développées en étroit partenariat avec les acteurs socio-économiques. Et soit dans des cadres de partenariat long terme, comme les chaires de recherche, 5 ans, 10 ans, pour certaines on en est à 15 ans, soit des partenariats plus court terme, 3 ans, le temps de thèse, ou encore plus court terme, lorsque les études le nécessitent. Et en gros, on a un portefeuille de 150 partenaires dans l'industriel, 70 du CAC 40 ou du 70% du CAC 40 ou du SBF 120. Alors, je conclurai ma présentation avec un rendez-vous et un jeu récréatif. Le rendez-vous, c'est Science 2024, 12 septembre 2019 au Pont. Alors, qu'est-ce que c'est que Science 2024? C'est l'association de 13 grandes écoles du CNRS et de partenaires complémentaires avec la Fédération des athlètes. C'est pour préparer les JO 2024. Vous l'avez compris, autrement dit, sportif et scientifique, c'est une alliance en or. L'objectif, c'est de gagner des médailles, que la science apporte des moyens pour gagner des pouillèmes de seconde et que ça se transforme en médaille d'or. Le 12 septembre, ce sera la présentation du premier challenge qui regroupe les projets des étudiants sur ces sujets en lien avec les fédérations sportives, où l'objectif, c'est bien évidemment l'optimisation des performances. Si vous avez un moment, ça dure toute la journée, il y a de très beaux projets, aussi bien concernant les Jeux Olympiques que Paralympiques. Par exemple, quels matériaux pour la dureté des lames, pour les sauteurs ou les coureurs en paralympique, le fauteuil pour les joueurs de tennis, par exemple, en paralympique, ou les performances en natation, ou encore de la vision augmentée pour les gardiens de but pour le foot. Alors maintenant, la récréation promise. Voici un carré. Voici 9 points. La question est simple, relier les 9 points sans lever le crayon à l'aide de 4 segments qui se touchent. Vous avez tous la réponse. Alors c'est relativement simple. C'est simple, évident dès lors que l'on pense à sortir de la boîte. Sortir de la boîte, c'est précisément l'état d'esprit de la recherche. C'est d'aborder des sujets, des questions, avec un prisme différent, c'est de le regarder pour être innovant. Donc, ma conclusion, c'est oser, imaginer, soyez créatifs, soyez innovants, pour jeter des ponts entre science et société, et bien sûr, devenez ingénieur-chercheur. Merci.